France Musique.
Quel scandale! Arvo Pärt est banni. Credo in Jesum Christum. Je crois en Jésus-Christ. Le credo fervent, calme, d'un cœur à quatre voix, s'élève avec lenteur, remplissant la grande salle à colonnade de l'Estonia Concertgebouw, soutenu par un grand orchestre apaisé, dans une pleine lumière. Puis soudain, dans un crescendo brutal, retentit « Jesum Christum », suivi d'un long silence. Le piano, solennel et recueilli, défile alors son ruban de notes emprunté à Bach. Et très vite, tout change, car être solennel et recueilli, ce n'est pas, mais alors pas du tout le propos ici. Ici, c'est Tallinn, en Estonie. Nous sommes le 16 novembre 1968. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Estonie est l'une des 15 républiques socialistes intégrées à l'Union soviétique, où la censure s'applique avec la même rigueur qu'à Moscou, Prague ou Kiev. Le concert est donné dans l'Estonia Concertgebouw, sous la conduite du chef estonien Neeme Järvi, avec le pianiste estonien Mart Lilleu et les chœurs et l'orchestre symphonique de la radio-télévision estonienne. Le jeune compositeur estonien de 33 ans, qui est l'auteur de ce credo, se nomme Arvo Pärt. Bref, c'est une équipe 100% estonienne qui se produit. Et c'est une véritable provocation pour Moscou. Dire « credo », c'est déjà aller trop loin. Dieu et Jésus sont les plus grands ennemis à combattre pour l'Union soviétique. Pourtant, Arvo Pärt ne s'est pas contenté de poser ces quatre mots latins vieux comme le monde, « credo in Jesum Christum », sur les phrases limpides de Bach. Il a peu à peu transformé le prélude de Bach. L'orchestre s'est densifié, la tonalité d'ut majeur s'est chargée de dissonance, de stridence. Le dodécaphonisme a joué les troubles fêtes. Arvo Pärt a fait basculer son credo dans le chaos. Et lorsque le cœur a hurlé ces phrases de l'Évangile selon Matthieu, vous avez appris ce qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Il est passé en quelques secondes seulement d'une affirmation harmonieuse de la foi à des phrases hachurées de violence. Un double télescopage. Télescopage musical, d'une part, où Bach et le dodécaphonisme se superposent sans précaution. Télescopage dialectique de l'autre, car l'affirmation de la foi, credo, débouche sur un appel à la résistance passive. Œil pour œil, dent pour dent? Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Aux yeux des autorités soviétiques, c'est une provocation politique impardonnable. Arvo Pärt connaît pourtant bien les rouages musicaux de son pays. Né à Paide, à 90 km au sud-est de Tallinn, et diplômé du conservatoire de Tallinn depuis 1963, il a, en plus de son cursus musical avec son maître Aino Heller, reçu des cours d'économie politique, d'histoire du communisme et de sciences de l'athéisme, comme c'est la règle, car un musicien est avant tout un citoyen soviétique au service de la cause. Depuis que le deuxième congrès de l'Union des compositeurs de Moscou de 1957 a rejeté la rigidité des années passées et mis en place des programmes d'échange culturel avec les pays occidentaux, des compositeurs comme Schönberg ou Webern ont été autorisés. Mais il ne faut pas s'y tromper. Cette concession à l'art bourgeois et décadent reste mal vue des autorités, et le répit sera de courte durée. Dès 1962, lors du troisième congrès, le dodécaphonisme est à nouveau attaqué, avec des prises de parole remarquées de compositeurs comme Khatchatourian, Kabalevski. Pärt a commencé la musique vers 7 ans, appris le piano, un peu le hautbois et envisagé la composition vers 15 ans. Il a écrit des pièces pour enfants, du théâtre de marionnettes, des pages pour la radio, pour quelques films, mais toujours de la musique fraîche, naïve, gentille, dans la ligne du parti. En réalité, il est très attiré par le dodécaphonisme qu'il écoute à la radio finlandaise. Entre le deuxième et troisième congrès, il compose « Nécrologue » pour orchestre, la première pièce ouvertement sérielle composée par un Estonien. Mais « Nécrologue » est sévèrement attaqué pour avoir épousé le formalisme occidental. Il fallait bien essayer. Alors, pour adoucir les critiques outragées par cette modernité interdite, il compose sa cantate « Maailmas Sam », l'essor du monde, grâce à laquelle il compte parmi les lauréats d'un concours pour les jeunes compositeurs organisé dans le cadre du troisième congrès de l'Union des compositeurs du RSS de 1962. Sa musique est alors jouée et diffusée en Union soviétique, parfois même en Occident. Mais qu'il ne croit pas pour autant qu'il soit libre de s'exprimer à sa guise et que ce prix lui accorde un blanc-seing. Pärt continue cependant à explorer la technique sérielle, ce dont témoignent ses deux premières symphonies, composées en 1964 et 66. Il se cherche dans des pages comme Solfeggio, Diagramme, Perpetuum mobile dédié à Luigi Nono. Il s'essaie aussi à la technique du collage dans Pro et Contra dédié à Rostropovitch ou dans Collage sur BACH. Des phrases de Jean-Sébastien Bach, comme la sarabande de sa sixième suite anglaise, sont plongées dans un bouillon acide de cluster. L'effet est garanti. On dirait la collision explosive de deux mondes, la traduction d'un conflit intérieur impossible à résoudre. Comme si sa musique indiquait « voie sans issue ». Et puis donc s'impose à lui, Credo, qui utilise la technique du collage jusqu'à ses limites. Est-ce un hasard si cette pièce reste l'œuvre pivot de la vie d'Arvo Pärt? À l'automne 1968, une fois sa partition terminée, le compositeur invite les membres de la commission à la répétition générale, comme c'est l'usage. Il leur explique son projet, le choix du texte latin, l'emprunt au clavier bien tempéré de Bach, sans trop s'attarder sur le titre. Et personne ne trouve rien à redire, aucune censure ni remarque désobligeante. Il faut dire que, par chance, le censeur le plus impitoyable du régime, qui déteste personnellement Pärt, est souffrant. Credo est autorisé. Et ce sera l'euphorie dans la salle. Ce 16 novembre 1968, l'Orchestre symphonique de la radio-télévision estonienne, sous la direction de Neeme Järvi, ouvre le concert avec la symphonie de psaumes de Stravinsky, puis entame le credo. Le public, rassemblé dans l'Estonia Concert d'Isal de Tallinn, fait un triomphe à cette œuvre nouvelle. Les interprètes doivent la bisser, mais ce succès inquiète le comité. Et c'est la douche froide. Des investigations sont menées. Le compositeur est désormais en ligne de mire. Si Neeme Järvi est épargné, des personnels de l'orchestre sont licenciés. La commission, obsédée par ce titre tellement provocateur qui leur avait échappé, convoque le compositeur. Monsieur Pärt, quel but politique poursuivez-vous avec cette œuvre ? Aucun, répond le compositeur. Votre œuvre, dont on se garde bien de prononcer le nom, sera désormais interdite. Et surveillez vos actes. Comme il se doit, Credo disparaît des salles de concert. Elle semble n'avoir jamais existé. Scandale. Thank you. Trois mois plus tard, le syndicat des compositeurs estoniens, appuyé par le parti, continue de discuter du problème Credo. Les interrogatoires se poursuivent. Pärt refuse de faire amende honorable, reste fidèle à ses convictions. Son credo était sincère, sans arrière-pensée politique. Ce n'est que l'expression de sa foi, ou du moins d'une nécessité intérieure, bref, un jalon de son cheminement personnel, rien de plus. Mes collages sont une sorte de transplantation. Lorsqu'on a le sentiment de ne pas avoir d'enveloppe propre, on essaie quand même de prélever partout des lambeaux de peau pour s'en envelopper. Avec le temps, ces lambeaux se transforment et deviennent une nouvelle peau. Je ne savais pas où allait me mener cette tentative d'écollage. Pour continuer à progresser, il faut abattre les murs. Se tourner vers Bach, c'était pour moi prendre position vis-à-vis de mon expérience du dodécaphonisme. Je voulais en sortir et entrer de force dans quelque chose que je n'avais pas encore exploré. Je me trouvais dans une situation d'extrême malaise et je voulais me prouver à moi-même combien la musique de Bach était merveilleuse et combien, à l'inverse, la mienne était haïssable. Je voulais montrer la nudité de la musique dodécaphonique comme dans ce conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur, dans lequel seul un enfant a l'innocence et le courage de dévoiler la nudité du roi. Mais voilà, Arvo Pärt a désobéi, il sera puni. Dénoncé, humilié, il est mis au banc de la vie musicale estonienne. Fini les commandes officielles. Alors il se venge comme il peut et compose des variations contrapuntiques sur l'Internationale communiste. Une boutade, bien sûr. L'œuvre ne sera jamais achevée. Mais Moscou s'offusque qu'un des symboles les plus précieux de l'Union soviétique ait été moqué. Des amis prennent sa défense. Arvo Pärt est aussi précieux aux Estoniens que Shostakovich aux Russes. Shostakovich ne nous est pas précieux du tout, répond sèchement le parti. La musique d'Arvo Pärt ne sera pas bannie des salles de concert, mais elle est mal vue. La vente et la diffusion de ses partitions sont interdites. Les journaux évitent de mentionner son nom. Très vite, les difficultés financières de la famille Pärt deviennent intenables. Pour le compositeur, commence une grave crise existentielle et artistique qui se traduit par un long silence. Fini le sérialisme et le procédé de collage. De lui-même, il se retire de l'espace public. Entre 1968 et 1976, Pärt passe l'essentiel de son temps à découvrir ou redécouvrir le chant grégorien, la musique médiévale, les polyphonies de la Renaissance. Il observe les vols d'oiseaux, les dessine dans son cahier et note une mélodie à côté. C'est ensuite dans des photos de montagne qu'il puise l'inspiration d'une phrase. Les années 70 s'écoulent ainsi. Dans un silence quasi mystique. Pärt plonge à l'intérieur de lui, songeant à cette phrase de son ancien professeur, Heino Heller. Il est beaucoup plus difficile de trouver la seule note qui convienne que d'en coucher des quantités sur le papier. La seule note qui convienne, oui. En 8 ans, Arvo Pärt n'achèvera que 2 œuvres. La cantate « Chant pour les bien-aimés » et sa 3e symphonie, où déjà s'amorce une nouvelle manière, le tintinnabulisme, fondement de ses chefs-d'œuvre à naître. Une musique épurée qui donne une impression de simplicité sans pratiquement jamais utiliser de modulation harmonique. « avant de dire quelque chose, il vaut peut-être mieux ne rien dire. Ma musique n'est apparue qu'après avoir été silencieuse pendant un certain temps, littéralement silencieuse. Pour moi, le silence signifie le rien à partir duquel Dieu a créé le monde. Une pause silencieuse est quelque chose de sacré. Si quelqu'un aborde le silence avec amour, cela peut donner naissance à la musique. J'ai réalisé que j'étais prisonnier d'un rapport de culpabilité excessive vis-à-vis de la musique ancienne et que, de ce fait, mon travail était quelque peu dépourvu d'un style propre. Pourtant, j'étais tout de même parvenu à établir en moi un pont entre l'hier et l'aujourd'hui, un hier vieux de plusieurs siècles et qui me donnait le courage nécessaire pour poursuivre mes recherches. Et voilà, il est prêt à faire table rase. Encore 4 ans, et ce sera l'exil.
France Musique, quel scandale, Jérémy Rousseau.
Arvo Pärt est banni, c'est sa voix intime qui nous parle ici, du Credo à Arbos, en passant par quelques psaumes et berceuses. Nous avons entendu la berceuse estonienne, les variations pour la guérison d'Arinouchka, un psaume, Credo, Arbos, d'Arvo Pärt. Tous les détails sont à retrouver sur francemusique.fr. C'était « Quel scandale ! Aujourd'hui, Arvo Pärt est banni !» Une émission de Jérémy Rousseau, réalisée par Claire Lagarde et préparée par Marion Guillemet, avec la collaboration de Laure-Hélène Dufournier. Prise de son et mixage, Claude Niort et Pierre Henry. Quel scandale est à réécouter et à podcaster sur francemusique.fr. Au programme samedi prochain, Lully, victime collatérale.
À réécouter sur francemusique.fr.